Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Bienvenue dans votre émission hebdomadaire « Et si on en parlait ?» Vous êtes sur Radio Orient. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à l'organisation du culte musulman en France. Et pour en parler avec moi, je vais vous présenter mes deux invités. Tout d'abord, Abdallah Zekri, délégué général du CFCM, Conseil français du culte musulman et président de l'Observatoire de l'islamophobie. Le CFCM, rappelons-le pour nos auditeurs, est une association qui, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, a vocation à représenter les musulmans de France auprès des autorités pour les questions relatives à la pratique du culte musulman. Également dans le studio avec nous, Khaled Bencher, qui est islamologue, président de la Fondation pour l'Islam de France, dont l'objet n'est pas religieux mais profane. La Fondation a vocation à développer ses projets dans l'ordre culturel, éducatif et social. Elle promeut dans le respect de la laïcité la connaissance du fait religieux musulman ainsi que l'histoire des civilisations et des sociétés musulmanes. Merci messieurs d'être avec nous.
Merci bien.
Alors, je vais vous faire réagir tous les deux sur une question d'actualité qui a beaucoup marqué les esprits la semaine dernière. Monsieur Zekri et d'abord peut-être vous, Khaled Bencher, parce que vous avez fait une tribune dans le journal du dimanche par rapport à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et vous avez souhaité vous exprimer sur ce sujet de manière extrêmement forte. Est-ce que vous pouvez nous en donner les raisons ?
Les raisons sont d'abord d'un citoyen ému de voir un joyau de l'art gothique, un monument aussi emblématique dans ses dimensions culturelles, spirituelles, historiques, littéraires même, faisant partie du patrimoine de l'humanité, pas uniquement de la nation française, partir comme ça en fumée, et donc à l'émotion quasi unanime, il y avait aussi une certaine tristesse. Et quand j'ai entendu le président de la République vouloir la reconstruire aussitôt, j'ai pensé à cette allégorie de la reconstruction aussi de la nation française, qui est une nation résiliente, convalescente, qui est aussi traumatisée et qui risque d'être fracturée et fragmentée. Donc cette allégorie d'une cathédrale qu'il faut reconstruire, conformément à un vieil adage chrétien qui dit que si vous voulez que les hommes fraternisent, mettez-les ensemble pour construire des cathédrales. Eh bien, notre cathédrale à nous est une cathédrale immatérielle. Son ciment, c'est la fraternité. Son liant, c'est la solidarité. Et le tout sous la voûte commune de la laïcité.
Alors, c'est des mots extrêmement forts. Abdallah Zekri, j'ai envie aussi de vous faire réagir. On vient d'entendre Khaled Bencher qui nous dit, dans sa tribune, c'est le moment d'immuniser notre nation contre les germes de la division. Et l'Union nationale, autour de l'émotion provoquée par l'incendie de ce monument, est un moyen peut-être de s'immuniser contre ces germes de la division qui sont toujours là, présents.
Je crois que Khaled Bencher a tout dit. Hein. Vous savez, quand il parle, c'est posé, c'est calme. Il a dit ce que je ressens, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a eu nous avons eu beaucoup de tristesse. Nous avons été peinés. C'est vrai que la cathédrale de Paris, au-delà de la chrétienté, c'est un lieu qui rassemble tout le monde. Je me souviens quand le père Hamel a été assassiné, on s'est retrouvé où ? On s'est retrouvé à la cathédrale de Notre-Dame de Paris, en tant que musulman, pour dénoncer ce crime odieux et horrible. Nous avons apporté notre soutien à l'Église de France, au-delà de l'Église de France, aux chrétiens de France qui ont été touchés. Bon, j'ai appris ça, j'ai vu des images, c'était de la tristesse. C'était que voulait avoir la gorge serrée de voir un lieu comme celui-ci en train de brûler. À l'époque, on ne savait pas si vraiment les pompiers allaient arriver à bout de cet incendie, à qui d'ailleurs je rends hommage. Mais c'est un lieu, je suis entièrement d'accord, c'est fait partie de l'humanité, il fait pas uniquement partie du quartier latin parisien. Donc ça nous a touchés à tous et espérons que la promesse du président de la République de reconstruire ça en 5 ans s'avère exacte.
Alors, on le sent hein, dans vos propos à tous les deux, il y a encore beaucoup d'émotions parce que effectivement, c'est un moment qui a à la fois traumatisé la nation, mais le monde entier, parce qu'il y a eu des réactions un peu partout dans le monde. Et effectivement, on espère bien que la reconstruction démarrera le plus tôt possible et qu'on va panser les plaies aujourd'hui un petit peu à vif de cet événement un peu extraordinaire. Mais je pensais que c'était important d'y revenir et je vous remercie à tous les deux pour cette réaction. Je vais tout de suite revenir sur le thème de notre émission. Khaled Benchekh, vous étiez présent ce week-end dernier à la rencontre annuelle des musulmans de France au Bourget. Vous avez participé à un débat sur l'organisation du culte musulman. Un débat qui a été animé, si on s'en réfère aux vidéos et aux réactions qu'il a suscité sur les réseaux sociaux et qu'il suscite encore d'ailleurs, disons-le clairement. Hein, il y a des réactions encore aujourd'hui sur ce qui s'y est dit ou sur ce qui s'est fait. Quel est le message que vous avez adressé, vous, dans le cadre de ce débat ?
Il y a tout d'abord cette question j'essaye d'être un homme poli et courtois, si on m'invite, j'y vais. Je n'y suis pas allé par effraction. On est à la 36e édition et je n'ai commencé à y être invité qu'à partir de la 33e ou de la 34e. Maintenant, je suis allé aussi ex-qualité, représentant la Fondation de l'Islam de France, et le débat était comment organiser la représentation ou la représentativité du culte. Normalement, on devrait dire islamique, mais le culte musulman en France ou de France. Je l'ai dit, je le répéterai, les musulmans comme citoyens n'ont pas besoin d'être représentés par quoi que ce soit, si ce n'est que politiquement. Et à ce sujet, il vaut mieux que le collège électoral soit conforme au collège électif. S'ils ne sont pas citoyens et résidents dans notre pays, ils peuvent être dans ce cas représentés par leur légation, leur consulat ou leurs ambassades. Maintenant, il y a lieu effectivement de trouver une instance représentative, cette fois-ci, de la gestion du culte de l'islam dans notre pays. Et là, il faut bien qu'il y ait cette instance composée d'hommes et de femmes à la compétence reconnue, à l'abnégation, au dévouement, au sens du service commun. Et c'est ce que nous attendons d'une telle instance.
Alors, cette instance, elle a déjà une identité, hein, c'est le Conseil français du culte musulman, qui néanmoins, malgré maintenant plus d'une décennie et même bientôt deux décennies d'existence, continue à faire débat. Et ma foi, on a le sentiment, Abdallah Zekri, que y a encore des attentes qui ne sont pas totalement satisfaites par les fonctionnements actuels ou l'institution, les institutions existantes.
Vous savez, on parle du CFCM. Il est vrai que le CFCM date depuis une décennie, enfin, ça fait à peu près une quinzaine d'années, depuis qu'il y a l'istichara de Jean-Pierre Chevènement. Il y a des problèmes qu'il faut naturellement résoudre. Moi, ce que je reproche à certaines personnes, c'est dire le CFCM n'a rien fait, le CFCM n'est pas crédible, le CFCM n'est ceci, cela. Alors, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux comme Ghalem Benchekh et comme d'autres qui souhaitent une instance améliorée, une gestion du culte normale par des gens compétents, par des gens crédibles, par des gens qui peuvent apporter une parole. Et vous avez d'autres personnes qui se sont présentées aux élections et qui, naturellement, n'ont pas pu être élues. Ou personnes qui ont fait partie du CFCM pendant quelques années en vantant les mérites du CFCM. Une fois qu'ils ont été écartés par l'élection, ils ont commencé à dénigrer le CFCM et à taper sur le CFCM. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je dis qu'il faut améliorer la gestion du CFCM, pas naturellement soit par des élections, soit par un consensus entre les uns et les autres. Il y a plusieurs fédérations. Et puis, il faut assainir également, parce qu'il y a des gens au CFCM, moi j'y suis. Depuis que je suis élu, je peux dire, et tout le monde le sait, je n'ai jamais raté une réunion du bureau du CFCM. Il y a des gens qui ne viennent pas pendant 7 ou 8 réunions et qui viennent une fois de temps en temps, ou pour, quand il y a une réunion avec un ministre, mettre une belle cravate, une chemise blanche et venir serrer les mains. Moi, je ne veux pas de ces gens-là. Moi, je veux des gens qui travaillent, qui peuvent apporter quelque chose, une contribution, des solutions aux problèmes qui se posent à l'islam en France, parce que l'islam de France, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Et je rencontre, je change de trottoir, il n'existe pas d'islam de France chez moi. L'islam est une religion révélée comme les autres et doit être traitée de la même manière. Il y a débat. Alors on nous parle de la présence des femmes et des jeunes, etc. Je suis d'accord, mais vous savez, dans les élections, dans les mosquées, l'élection vient de la base et dans les mosquées, ils ne présentent jamais dans leur liste des femmes. Alors on est en train de voir comment faire, par exemple, sur un pourcentage de personnes cooptées, parmi lesquelles à ce moment-là, on peut coopter des femmes ou de jeunes intellectuels qui peuvent apporter quelque chose. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'au sein du CFCM, il n'y a pas de gens intellectuels qui peuvent apporter des choses, qui peuvent un petit peu faire avancer également les choses dans le cadre de l'organisation de l'islam. Voilà actuellement le débat dans lequel on se trouve.
Alors, Khaled Bencher, vous avez entendu Abdallah Zekri, il consent à reconnaître une difficulté de représentativité, hein, place des femmes, faire plus de place aux femmes et aux jeunes, ce qui, semble-t-il, reste aujourd'hui difficile, puisque ça, c'est des candidatures qui remontent finalement de la base. Est-ce que vous pensez que c'est une partie de la solution, ou est-ce que c'est une partie de la solution, mais qu'il faut aller un petit peu plus loin et reposer d'autres questions sur le fonctionnement de l'institution et la manière dont elle peut fonctionner?
Toute œuvre humaine est perfectible, et les plus belles symphonies restent inachevées, comme le dit le vieil adage. À travers l'histoire, revenons un peu à notre belle tradition et à la tradition religieuse islamique, jamais il y avait une instance représentative de la pratique du culte. Il y avait des oulémas, des docteurs de la loi, des savants, et puis il y a même une formule qui est « ceux qui savent lier et délier ». En arabe, on les appelle « ahlul halli wal aqd ». Ceux qui savent lier et délier, sous-entendu, ils savent lier et délier les léchevaux des difficultés inhérentes à la théologie islamique, à la pratique religieuse islamique, a fortiori, dans l'obédience sunnite qui ne reconnaît pas une autorité centrale, une structure cléricale, un souverain pontife, etc. Chez les chiites, il y a un clergé d'ordre académique et qui n'est pas d'ordre sacerdotal, il faudrait aussi le savoir, mais chez les sunnites, il n'y en a pas, et la majorité des musulmans de France sont plutôt sunnites. Il se trouve aussi que les pouvoirs publics ont besoin d'avoir en face d'eux un interlocuteur sérieux, compétent, etc. On a cru le trouver dans le CFCM. Il s'améliore, il s'amende, il trouve une réforme des statuts. Accompagnons tout cela ensemble, parce que les germes de division dont nous avons évoqué tout à l'heure quelque chose à propos de la nation doivent être aussi évités, a fortiori, dans la composante islamique de la nation. Je reste dans une logique de construction, d'une volonté commune, de faire quelque chose d'utile, de formidable, et qui fasse recouvrer la fierté et la dignité de l'ensemble des musulmans, qu'ils soient citoyens français ou résidents ou de passage dans notre pays.
Alors, Abdallah Zekri, on s'interroge évidemment sur la fluidité des relations entre les différents gouvernements et l'instance représentative du culte musulman, puisque c'est un des rôles pour lequel cette instance a été créée. Et on a le sentiment aujourd'hui, bien que ces relations, elles ne sont pas tout à fait évidentes. Il y a eu, on se rappelle l'année dernière, un refus poli du Premier ministre et du Président de la République de participer au dîner annuel du CFCM. Et depuis, on a le sentiment que les discussions se font, mais qu'on a du mal à avancer. Est-ce que vous avez la même analyse, ou est-ce que pour vous, je dirais, la situation est très constructive et vous avez le sentiment, au contraire, d'avoir l'écoute des autorités et du gouvernement?
Vous savez, je vais revenir rapidement sur ce que vous avez évoqué par rapport au refus du Premier ministre et du Président de la République pour l'iftar du CFCM. Le Premier ministre n'a pas refusé l'iftar, il est venu en retard, certes, parce que le calendrier ne lui permettait pas. Il a été convoqué à la dernière minute par le président de la République, d'après ce que nous a été dit, et que, naturellement, il a dit qu'il venait au dessert. Il est venu avant le dessert. Le président de la République, effectivement, il a été invité, et on nous a dit que son calendrier ne le permettait pas. Concernant le Premier ministre, nous avons été d'accord avec lui. C'est lui qui a, on lui a proposé des jours pour l'iftar. Il a choisi un jour qui le convenait, donc il l'avait dans son agenda. Et par la suite, il y a eu une réunion avec Collomb au ministère de l'Intérieur, dans laquelle il nous dit, non, c'est le ministre de l'Intérieur qui va représenter le Premier ministre et le président de la République. Donc j'avais fait un communiqué à l'époque pour dire, on ne se permet pas de faire ça avec le CRIF ou avec d'autres personnes, mais avec l'islam, on peut prendre toutes les libertés. On dit on vient et on ne vient pas. Donc c'est une manière de le traiter comme des citoyens français de seconde zone. Nous ne l'avons pas apprécié. Il est vrai que nous ne l'avons pas apprécié. Et le Premier ministre, il est venu et on s'est expliqué. Ça, c'est concernant l'iftar. Maintenant, nous, on ne peut pas obliger le président de la République de venir s'il ne souhaite pas venir. Ça, c'est le premier point. Concernant maintenant les différents ministres de l'Intérieur ou les différents gouvernements qui se sont succédés par rapport à l'islam. D'abord, moi, en ce qui me concerne, et vous me connaissez, Ranem Belchir, qui est un ami intime, il connaît comment j'ai réagi. Je suis quelqu'un qui a toujours été franc, et je ne suis pas quelqu'un qui cherche ni les médailles ni les honneurs. Il va de soi que je me suis élevé très souvent contre l'ingérence de l'État dans l'organisation du culte. Parce que on s'ingère uniquement dans le culte musulman. Je n'ai jamais entendu une déclaration du président de la République, du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur qui disent qu'il allait organiser le judaïsme ou le christianisme. Mais organiser l'islam, on y va. Le président de la République avait dit l'année dernière qu'il souhaitait mettre les jalons de l'organisation de l'islam de France, et ça pour le premier semestre 2018. Le premier semestre 2018 est passé. Le président de la République n'a pas mis les jalons comme il a voulu. Après, il a parlé qu'il allait mettre ça en ordre le mois d'août. À l'automne, il n'a pas mis. Après, en fin d'année, monsieur le président de la République a dit finalement qu'il est en train de travailler dessus. Il a demandé aux visiteurs du soir, à monsieur le Karoui, monsieur Kepel, le grand rabbin de France, de lui donner des idées. Et le grand rabbin de France, naturellement, a donné une idée qu'il fallait mettre un grand imam représentant naturellement l'islam. Et comme l'a dit tout à l'heure Ranem Belchir, chez nous, les sunnites, il n'y a pas d'autorité centrale. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les croyants. Donc il ne peut pas y avoir une autorité centrale. Alors Kawi, il a fait un rapport de 605 pages. Bon, il aurait fait 600, j'aurais dit, il vient de créer Hezb encore de nouveau. Et sur son rapport, 80% du rapport, il parlait de politique, le Maghreb, la Turquie, etc. Et quelques pages concernant l'organisation de l'islam. Donc par conséquent, ça, on n'a pas réussi. Alors on nous dit, à nous, musulmans, on nous reproche tout le temps de ne pas respecter la laïcité. Nous, nous souhaitons la laïcité, rien que la laïcité et que la laïcité. On a été interrogé dernièrement par l'Observatoire de la laïcité de Bianco, une audition qui a été faite avec le président du CFCM et moi-même. On a demandé le respect de la laïcité. Nous, nous respectons la laïcité, mais on s'est rendu compte que c'est le pouvoir politique qui ne la respecte pas. Parce que c'est l'ingérence en permanence dans l'organisation de l'islam. C'est en permanence de vouloir, on veut créer des comités départementaux, c'est l'État qui le demande. On fait des assises, c'est l'État qui les organise, etc. Donc il faudrait un petit peu que cet État comprenne. Même si la France est le seul pays où il y a la laïcité, on veut bien la respecter, étant donné qu'elle existe. Mais qu'on arrête un petit peu cette ingérence. Et par la suite, on va parler également de la loi de 1905, pour laisser la parole à notre auditeur.
Alors oui, bien sûr, on va aussi parler dans la seconde partie de l'émission, puisqu'on a une deuxième partie de l'émission où on reviendra plus précisément sur, je dirais, les attentes en termes d'évolution et notamment tout le débat autour de la modification ou pas de la loi 1905. Et je interrogerai après la pause Ghaleb Belchir, parce que sur l'ingérence, vous n'avez peut-être pas tout à fait le même point de vue. En tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre de vos déclarations. Mais on va y revenir dans un instant. Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission « Et si on en parlait ?»
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», votre émission hebdomadaire de débat. Aujourd'hui, nous évoquons la question de l'organisation du culte musulman en France avec mes deux invités. Abdallah Zekri, délégué général du CFCM, Conseil français du culte musulman et président de l'Observatoire de l'islamophobie, et Khaled Bencher, islamologue et président de la Fondation pour l'Islam de France. Alors messieurs, nous étions dans l'invocation de la loi 1905, hein, qui est une loi en France qui est incontournable et auquel, je crois, tout le monde est attaché, les croyants et les non-croyants, puisqu'elle garantit des libertés fondamentales et notamment la liberté de croire ou de ne pas croire. Là, Abdallah Zekri considérait qu'il y avait une ingérence peut-être plus importante vis-à-vis de l'islam que vis-à-vis d'autres cultes. Et Khaled Bencher, j'ai lu certaines de vos déclarations et vous considériez qu'il n'y avait justement pas forcément d'ingérence.
Alors, mon cher Alexis Bachelet, c'est peut-être moi qui ne me suis pas rendu suffisamment explicite et donc vous m'avez mal compris. Je suis légaliste et comme légaliste respectueux des lois de la République, il y a une loi fondamentale, celle de la Constitution, et dans laquelle il est dit que la République respecte les institutions laïques. Deuxièmement, la loi 1905 interdit à l'État de s'ingérer dans la Constitution, dans l'organisation d'un culte quel qu'il soit, et a fortiori dans le culte islamique. Troisièmement, j'ai toujours été, même lors du débat à propos du toilettage de la loi de 1905, contre le fait d'y toucher. Et à supposer par extraordinaire qu'il faille le faire, ce seraient plutôt les articles dits techniques et absolument pas les articles premiers, fondamentaux, et qui sont la base même du socle de la séparation. Maintenant, c'est vrai que j'ai ajouté, et le maintenant n'est pas une restriction, qu'il y a là un paradoxe et que je peux comprendre que les pouvoirs publics veuillent avoir en face d'eux un ou des interlocuteurs, pourquoi pas un, il vaut mieux, qui soient susceptibles de parler au nom de l'exercice du culte islamique, pas pour représenter les musulmans, j'y tiens beaucoup, mais l'exercice en tant que tel, sa pratique, les valeurs de la tradition religieuse islamique qui se marient avec les valeurs de la République, mais les toilettes mortuaires, les pompes funèbres, le pèlerinage à la Kaaba, à la Mecque, la construction de mosquées, la formation des imams, que sais-je encore, l'abattage rituel,
la possibilité d'être enterré dans le pays d'origine.
À terme, il n'y aura pas cette affaire de pays d'origine, puisqu'on parlera de citoyens français qui n'ont d'autres patries que la patrie française, etc. À terme, j'entends bien. Donc là, il faut bien qu'il y ait cette organisation. Il n'incombe absolument pas à l'État de l'organiser. Il est en attente d'avoir cette organisation qui doit se faire. C'est à la aux musulmans eux-mêmes et de trouver avec leur hiérarque comment mettre cela. Je le dis d'autant plus, maintenant j'y pense, que je me suis insurgé en 100 ans contre ce qu'on appelle le conclave de Nainville-les-Roches, où on a vu à ce moment-là un ministre de l'Intérieur pressé de devenir président de la République et qui a dit « toi je te nomme président, toi je te nomme secrétaire général, toi je te nomme trésorier » et on avait organisé des élections post-eventum, après coup, et qui n'avait pas corroboré le dit bureau. C'était cette pratique-là qui a fait en sorte que certains jeunes de la jeunesse musulmane dans notre pays s'est détourné de cette manière de faire. Maintenant, c'est derrière nous, ça remonte à 16 ans. Regardons l'avenir avec optimisme, mais aussi avec détermination.
Alors, Abdallah Zekri, je pense que vous aussi, vous avez envie de regarder vers l'avenir. Et quelles sont finalement aujourd'hui les principales attentes des membres du CFCM et de la communauté musulmane, non pas évidemment sur la croyance, mais sur la manière de pratiquer, les conditions. Parce que finalement, les sujets qui reviennent souvent, c'est effectivement, Khaled Bencher l'a dit, les lieux de culte, il y en a, mais pas toujours adéquat ou pas suffisamment. Les conditions, les carrés musulmans, il y en a dans certaines communes, mais d'autres communes ne font pas droit à ces demandes. Voilà, il y a un certain nombre de choses extrêmement concrètes, des attentes. Est-ce que c'est ça les combats du CFCM ou quels sont aussi les autres sujets que vous souhaitez voir avancer?
C'est parmi les combats du CFCM. Alors, juste pour préciser ce qu'a dit Alain Bencher, et je suis tout à fait d'accord, le CFCM ne représente pas les musulmans de France. Le CFCM, c'est le Conseil français du culte musulman, oui. L'organisation du culte. Les musulmans, s'ils veulent faire de la politique, ils ont des partis, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent être électeurs, éligibles, etc. Ce sont des partis. Donc, on ne représente pas les musulmans. Les musulmans sont représentés par eux-mêmes ou dans des associations politiques ou autres. Nous, c'est le CFCM, c'est le Conseil français du culte musulman. Parmi les combats, justement, qu'on est en train de mener, il y a eu une création au sein du CFCM d'une association culturelle qui a été créée l'année dernière et qui n'a pas encore commencé à fonctionner parce que il va y avoir les élections donc du CFCM. Elle a comme but le financement du culte musulman, chercher les ressources d'une part. Le problème des carrés musulmans, c'est vrai qu'on est confronté à une situation importante au niveau des carrés musulmans parce que il y a dans certaines villes, il y a des carrés musulmans. Dans des petites communes, il n'y a pas de carré musulman. Et lorsque, par exemple, un jeune musulman décède dans une petite commune où il n'y a pas un carré musulman, on veut l'enterrer dans la ville, le chef de département, le chef-lieu. Le maire, il dit, il n'habite pas dans ma commune. Il faut toujours faire des demandes. Donc, vous savez, vous avez parlé, vous avez dit, ceux qui se font enterrer chez eux. Oui, il y a actuellement des assurances d'essai, de transfert de corps. Mais actuellement, il y a l'intégration. Malheureusement, c'est de le dire. Si j'ose m'exprimer ainsi, il y a intégration qui se fait par les morts actuellement. C'est fini, la plupart des musulmans ne veulent pas envoyer leurs morts s'enterrer en Algérie ou au Maroc ou ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est surtout les épouses, il faut être honnête. Elle dit, moi j'ai 4 enfants, 5 enfants, je ne retourne plus dans mon pays, je reste là. Je veux que mon fils qui meurt ou mon mari soit enterré ici en France pour que je puisse aller le vendredi, le jour de l'Aïd, etc. pour aller lui rendre visite au cimetière. Donc il y a une intégration qui se fait également par la mort. Il y a également le problème du pèlerinage qu'il faut assainir. Parce qu'il y a trop de charlatans, d'associations malhonnêtes, etc. Il y a un travail à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je voudrais quand même revenir, moi, à la loi 1905. La loi 1905, c'est un projet qui a été soumis le 10 janvier 2019 aux différents responsables de culte à l'Élysée. Et le président de la République a remis une note blanche, ce qu'on appelle une note blanche, dans laquelle était marqué « Renforcer la laïcité, garantir le libre exercice du culte ». Cette note blanche n'avait ni les antennes de l'Élysée, ni la signature du président de la République. En nous disant « Voilà, il faut travailler sur ce document et attendez, nous allons voir ça après le débat des Gilets jaunes, donc prenez votre temps pour faire des propositions, etc. » Le ministre de l'Intérieur qui dit, lui, non, moi, il va falloir que je travaille tout de suite, il faudrait qu'on fasse une loi. Et par la suite, c'est revenu en marche arrière. Nous avons été reçus par le président du Sénat. Nous avons rencontré les présidents de groupes politiques. On a rencontré des élus de la République en marche, c'est-à-dire du parti du président de la République. Ils étaient tous vent debout contre cette modification de la loi 1905. Bon, maintenant, le président de la République, il a fait des rétropédalages sur la question de cette loi. Alors, le but finalement, la loi de 1905, elle visait ni les juifs, ni les protestants, ni les catholiques, elle visait l'islam et les musulmans. Je le dis et je le répète, parce que il y a 2600 lieux de culte à peu près qui sont régis par la loi de 1901, on veut les faire passer à 1905. Même si la loi a été modifiée en 1905, nous sommes dans un pays où il ne peut pas y avoir de loi rétroactive. C'est-à-dire, les mosquées qui sont en 1901, personne ne les oblige en 1905. Deuxièmement, on nous dit, il faut qu'on modifie la loi de 1905 par rapport au contrôle de financement de l'islam par des pays étrangers. Je suis désolé, qu'on me donne les noms de ces pays étrangers qui sont en train de financer. Et même si certains, comme l'Algérie, qui a des imams qu'elle paye, la Turquie, etc., ou le Maroc, l'argent vient par des ambassades. Il ne vient pas en liquide dans des valises, c'est pas cause en osera. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, également, on nous dit, c'est pour fermer les lieux de culte lorsqu'il y a des discours qui ne respectent pas les valeurs de la République. À ce que je sache, il y a déjà des mosquées qui ont été fermées, il y a des imams qui ont été expulsés, ils n'avaient pas eu besoin de modifier la loi 1905 pour arriver à ce résultat. Donc, ils sont en capacité de le faire, et c'est tout à fait normal. On est dans un pays où il faut respecter les règles de la République, il faut respecter la laïcité, il faut combattre ceux qui tiennent des discours haineux, s'ils ne sont pas contents qu'ils partent ailleurs. Ça, c'est également au niveau du CFCM, nous avons appelé les mosquées, pour les vendredis très souvent, de faire des contre-discours, ou bien essayer, quand même, s'il y a des imams qui tiennent ces discours-là, de les rappeler à l'ordre. Donc, il y a un travail qui se fait. Le CFCM ne reste pas les bras croisés. Moi, ce que je dis, et je le répète, il y a des insuffisances qu'il faut améliorer. Le CFCM, il a 15 ans. C'est pas quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il a 15 ans. Il y a quelques modifications à apporter. Il y a des améliorations à faire. Et je pense qu'on peut arriver. Ceux qui vont venir, il y a beaucoup de gens au CFCM qui ne sont pas éternels. Je ne suis pas éternel non plus. Il y a des gens qui vont venir, qui vont prendre la relève, espérant que ce sont des gens qui vont aller dans le sens d'unir les musulmans, et de ne pas diviser. On a eu beaucoup de mal, déjà, à enlever cette idée marocain, algérien, tunisien, etc. Et alors, on nous reproche l'islam du consulat. Je suis désolé, depuis déjà 8-9 ans, je n'ai pas vu un consul s'ingérer dans les élections du CFCM ou des CRCM au niveau local. Oui, c'était vrai en 2003, parce qu'il y avait une course au pouvoir.
Alors, on vous entend bien. Hein. Donc, vous êtes finalement pour qu'on conserve la loi de 1905, telle qu'elle est. C'est bien ça, on a bien...
Tout à fait.
Et donc, en fait, vous inscrivez dans ce qui semble être la position aujourd'hui dominante. C'était pas forcément le point d'entrée du gouvernement dans ce débat, mais le gouvernement semble quand même avoir entendu les voix qui s'exprimaient et qui manifestement ne souhaitent pas que la loi de 1905 soit modifiée. Au contraire, il semblerait que tout le monde souhaite son maintien. Khaled Bencher, oui. Ce qui malgré tout n'interdit pas de réfléchir à une amélioration, Abdallah Zekri en a parlé, parce que ça fait quand même partie des sujets qui fâchent, ou en tout cas qui interrogent, sur le financement des lieux de culte, sur la formation des imams, dont certains ne connaissent pas la langue du pays dans lequel ils viennent pratiquer et discourir, et ça c'est vrai que ça interpelle quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut, si on ne touche pas à la loi de 1905, qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Quelles sont les marges de manœuvre?
Deux ou trois petites choses. La première, la loi de 1905, on n'y touche pas parce que c'est la sagesse même, mais ça reste une loi faite par des hommes et elle peut être défaite par des hommes et elle a été toilettée 17 fois. Ce n'est pas quelque chose de sacré, indépassable. Pour l'instant, nous n'y touchons pas, de mon point de vue, parce que c'est la sagesse et elle nous convient. Nous autres citoyens... Et elle nous convient, si j'ose dire, nous autres musulmans. Et nous sommes vigilants pour qu'il n'y ait pas à la toiletter exclusivement pour un culte déterminé qui se trouve être le culte islamique. Deuxièmement, il n'y a pas de sujet qui fâche. Et à supposer, là où c'est par extraordinaire qu'il y en est un, il devient le lieu de la médiation, du débat, de la rencontre. Et il ne faut pas éluder effectivement les sujets cruciaux ou fondamentaux. En tout cas, de mon côté, et je ne vois pas, je ne pense pas qu'il y ait un quelconque sujet qui fâche à propos du financement du culte.
Je vais être plus précis, pardon.
Je vous en prie.
C'est que il y a régulièrement des ouvrages qui sortent, et Abdallah Zekri, lui, disait c'est pas Cosa Nostra, tout est clair, tout est transparent, mais il y a quand même toujours, encore là récemment, des accusations du financement de lieux de culte musulmans en France par des puissances étrangères. Et c'est pas nouveau, ça fait des années et des années qu'on a ce type d'enquête ou d'accusation. C'est pas toujours très bien sourcé, mais en tout cas, c'est récurrent.
Mais mon cher Alexis Bachelet, en commençant par dire cela, c'est-à-dire que le fait de débattre de ça, c'est pas un sujet qui fâche, c'est un sujet réel. Je vois pas pourquoi nous en parlons en étant aigris. Nous le prenons à bras le corps, c'est ce que je veux dire.
D'accord.
Et si ça devait émaner de puissances étrangères, je peux dans un premier temps dire, tiens, il y a une ingérence d'État tiers dans la souveraineté de la France, mais ça n'est pas fait d'une manière occulte. Donc, dans les relations diplomatiques, il faudrait revoir peut-être ces considérations avec le Maroc, l'Algérie, la Turquie. J'ai cru comprendre qu'avec l'Arabie Saoudite, les choses sont de moins en moins du côté gouvernemental, il faudrait voir aussi peut-être du côté du Qatar. Mmh. Il y a un ouvrage récent qui a mis en avant le fait même de rémunérer tel ou tel prédicateur ou telle association. Donc, les choses ne sont pas faites d'une manière occulte, elles sont faites d'une manière connue par les services nationaux à propos de cette traçabilité, ou pas d'ailleurs, moi je n'y suis pas et je ne reçois rien de ça. Deuxièmement, peut-être pour régler ce problème, il y a lieu de lancer une souscription nationale et pourquoi pas internationale dès lors que c'est transparent, pour que des fidèles contribuent au financement de leur propre culte. Maintenant, je reviens à la question de la formation des imams. Il vaut mieux les former en France, avec des formateurs eux-mêmes à l'esprit gallican. J'ai toujours émis l'idée que dès lors que le concordat existe, pourquoi pas ne pas profiter aux ministres du culte musulman ? Pour la simple raison qu'on ne peut pas nous dire que la laïcité est une exception en France, que le concordat est une exception dans l'exception et que l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception. Ce n'est pas sérieux. Voilà, dans un premier temps, on peut le faire dans les départements concordataires. Après, lors de la période des vaches grasses, ça sera fait dans tout le territoire national métropolitain et pourquoi pas aussi ultramarin. Et la formation des imams se fera en France avec un esprit d'hommes et de femmes, de prédicatrices aussi, qui soient formés sur la partie cultuelle avec la connaissance bien poussée de la théologie islamique et aussi sur la partie culturelle des institutions républicaines, de l'histoire de la France, du patrimoine et de l'héritage français, et ce que d'ailleurs la Fondation de l'Islam de France s'évertue à faire en octroyant des bourses à ses imams.
Et vous avez raison de rappeler aussi le rôle actif de la Fondation pour l'Islam de France, qui peut effectivement, par des bourses, donner des perspectives dans la direction que vous avez indiquée. Abdallah Zekri, pour continuer sur ce débat qui est très important, parce que je pense que c'est vraiment souvent des sujets qui reviennent. D'abord, vous pouvez nous confirmer, je pense que c'est la réalité, que la majorité des lieux de culte sont d'abord financés par les croyants eux-mêmes.
Ben écoutez, tous les lieux de culte sont financés par les fidèles. Pourquoi ? Moi, quelqu'un qui voyage beaucoup, qui va visiter plusieurs mosquées, j'en ai encore visité ce week-end, Pascal, 3 lieux de culte, les fidèles donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent parce qu'ils savent que la mosquée, elle a une facture d'eau, parce que ça coûte cher. Ils savent que la mosquée, elle a une facture d'électricité, parce que ça coûte cher. Ils savent que la mosquée, elle a besoin d'entretien. Nous allons rentrer dans le mois du Ramadan sacré, il va y avoir des repas tous les soirs dans plusieurs lieux de culte pour les gens démunis. Et je précise pour nos auditeurs, c'est lorsqu'ils reçoivent des gens à manger, ils reçoivent tout le monde. Ils ne reçoivent pas que les musulmans. Moi, j'ai vu plusieurs fois des Français de souche, hein, des personnes pratiquantes, non pratiquantes, qui viennent manger le jour du Ramadan à la mosquée. J'ai vu beaucoup de Français, même dans les quartiers, dans une mosquée où je suis vice-président, il y a dans le quartier des Français qui sont aisés, mais ils viennent, ils disent, on veut venir manger la charba et manger le couscous. Et ça fait plaisir. Ça, c'est le premier point. Concernant les imams, la mosquée de Paris a reçu, la semaine dernière, il y a à peu près maintenant 5 jours, elle a reçu 49 imams qui sont arrivés d'Algérie. Les 49 imams, sans exception, ils parlent les 49, ils parlent français. Les 49, parce que maintenant, c'est une règle, pour venir en France, il faut parler français. Ils parlent français, ils sont formés. Mais le problème qui se pose actuellement en France, il faut bien comprendre ce que je vais vous dire. Il y a des imams qui ont fait... On parle des imams formés en France, je suis d'accord avec Khalem. Mais il y a un problème, il y a des imams qui sont formés en France, qui sont compétents et qui sont au chômage. Pourquoi ? Parce que vous prenez une mosquée, une grande mosquée, elle préfère avoir un imam détaché d'Algérie ou du Maroc parce que cet imam il est payé par le pays qui l'a envoyé, que de payer un imam. Elle paye un imam, supposons au pire 1500 euros au SMIC, il lui coûte 3000 euros avec les charges. Alors pourquoi payer 3000 euros un imam plus les charges de l'État, alors qu'il peut avoir un imam gratuit. Et s'il y a un imam gratuit, dans quelque temps il n'y aura plus d'imams qui viennent et qui sont affectés gratuitement, eh bien à ce moment-là, on recrutera ces imams. Concernant l'Alsace-Lorraine, concernant le Concordat, ça fait 6 ans de ça, moi, que j'ai parlé de ça. plus de 6 ans avec les différents ministres de l'Intérieur pour dire pourquoi ne pas former des imams dans la mesure où en Alsace-Lorraine, c'est permis, ils peuvent être financés, etc. Ah, me dit, mais attendez, l'Église catholique ne veut pas partager. Voilà exactement la réponse qui m'a été faite, pas par un, par deux ou trois ministres qui disent, oui, on a essayé, mais l'Église dit, niet, moi, on ne touche pas à mes budgets sur cela. Donc ça aussi, ça pose problème. Maintenant, concernant le financement, oui, il y a une enquête qui a été faite par Malbruno Chesneau que je connais, parce qu'ils étaient quand même otages en Irak à l'époque où je me suis rendu avec deux des collègues du CFCM pour plaider leur libération. Ils ont fait une enquête, je pense que c'est une enquête approfondie. S'il y a quelques imams salafistes ou autres, il ne faut pas mettre tous dans le même paquet. L'Arabie Saoudite, contrairement à ce qu'on a fait croire à un moment donné, l'Arabie Saoudite, elle ne donne jamais d'argent. Des mosquées en construction qui ont des difficultés à payer, ils demandent son aide. Elle avise le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que je peux aider cette mosquée? Elle est dans les règles, elle n'est pas fichée, etc. Une fois qu'on lui dit oui, à ce moment-là, il paye les factures directement aux entreprises, mais ne donne jamais d'argent. Maintenant, concernant l'Algérie, elle paye les imams, c'est normal, ce sont des fonctionnaires qui viennent, elle les paye, et puis c'est fait d'une manière régulière, payé sur leur compte, viré par la Banque de France, et ainsi de suite. Donc, la clarification. J'aimerais bien que l'État clarifie un petit peu l'argent du Qatar pour les équipes de football, pour les hôtels, etc. Là, on ferme les yeux. Voilà, on s'intéresse uniquement à ce qu'est islam et religion.
Merci Abdelazekri, c'était extrêmement clair. Il n'y a pas effectivement de sujet qui fâche. Il y a des sujets, on en parle. Voilà, ça peut susciter du débat. On n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres.
Il faut avoir le courage d'exprimer ses opinions dans le respect de l'autre, dans le respect de tout le monde. Et puis chacun avance par la suite.
Alors. Peut-être un dernier mot, Khaled Benchir, puisque nous approchons vers la fin de notre émission qui était déjà extrêmement riche et dense, pour nous parler peut-être de la conférence qui aura lieu dans quelques jours à Paris, le 30 avril, c'est ça?
Ce n'est pas vraiment une conférence, c'est l'acte 2 de l'université populaire itinérante qu'organise la Fondation de l'Islam de France. On a commencé par Choisis le Roi. Ça, c'est un peu l'étape de Paris dans le 19e arrondissement. À la Villette, au centre culturel chez Larbi Keshat, pour rencontrer nos compatriotes, musulmans ou non musulmans, pour débattre du fait islamique. Et on le fait de ville en ville. On viendra un jour à Nîmes, mais ce qui est prévu maintenant, c'est Marseille, Bordeaux, Lille, Argenteuil, Bondy, Drancy, Cormeilles-en-Parisis, Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, pour citer celles où le débat autour de l'islam est réel. On apprivoise les peurs, on exorcise les hantises, on domestique les angoisses, on en parle afin de sortir par cette catharsis, par cette thérapie de et par la parole, dans une approche apaisée et apaisante pour l'ensemble de la nation.
Merci beaucoup à vous deux. Merci Abdallah Zekri, délégué général du CFCM, Conseil français du culte musulman et président de l'Observatoire de l'islamophobie. Merci Khaled Benchir, islamologue, président de la Fondation pour l'Islam de France. C'était l'émission « Et si on en parlait ?» consacrée à l'organisation du culte musulman en France. À la semaine prochaine. Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.